Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour Sherbrooke, on est le 25 septembre, il est midi 5, et c'est l'heure de votre émission de jeux de société et de jeux de rôle Ludo Radio. Bonjour tout le monde, c'est votre animateur Alexandre Bélanger. Je suis joint comme d'habitude par mes deux comparses habituels. Nathan, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va bien. Et Hugo, comment ça va?
Malgré la pluie, ça va bien.
C'est effectivement une journée un peu grisâtre aujourd'hui. Pas le meilleur moment pour le marché public, mais si ça vous intéresse, le marché public est là aujourd'hui. Il y a du miel, il y a du linge.
Il y a des légumes aussi.
On va commencer cette semaine par grosse annonce. Nathan, t'as décidé de ne pas te représenter comme président du CJRSS?
Oui, j'avais besoin de diminuer mon travail à l'université. Ça n'allait pas bien, donc j'ai décidé de prendre ma santé et de ne pas me représenter cette année.
Ben écoute, je pense que c'est une bonne décision que tu as prise. Et on a une nouvelle présidente. Une présidente première de l'histoire du CGRSS, de ce qu'on sait, on va être sûr, par exemple, vous dire bienvenue à Daphné Blaine, nouvelle présidente, qu'on va vous inviter et vous présenter dans les prochaines semaines. On a encore moi comme directeur des opérations, Hugo est resté comme directeur du marketing et des communications avec les membres. On a un nouveau directeur des activités qui est Jacob Lambert, qui est un ancien du club qui venait souvent, qui voulait s'impliquer. On a notre ancienne secrétaire qui est restée, Isabelle Banville. On a un nouveau trésorier, Pascal Aublet-Bureau. On a un nouveau curateur qui est Étienne Germain. Curateur, c'est le nouveau poste qu'on a créé pour s'occuper uniquement de la Ludo. Et j'oublie-tu quelqu'un?
Ça fait pas mal le tour.
Ça fait le tour, hein?
Oui, oui.
Alors, nouvel exécutif du CGRSS qui commence à se mettre là... en branle pas trop, tranquillement, pas vite, comme on dit. Ça va quand même bien, puis les opérations normales vont continuer. Les membres ne devraient pas voir trop de changements. À ce sujet, on va avoir une petite annonce de party à faire.
Un party qui devrait avoir lieu le...
Premier samedi d'octobre.
Premier samedi d'octobre, ce qui correspond au 5 octobre.
5 octobre, donc de 9 à 9, dans le 10001. Venez nous rejoindre en grand nombre. On va mettre bientôt un petit horaire là, pour ceux qui veulent se céduler des parties de jeux de rôle, parties de jeux de société, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre petit hiatus de deux semaines, à part le changement tectonique au niveau de la direction de notre regroupement? On a un changement tectonique ou pas, dépendamment de la perspective, au niveau du jeu de rôle fort... Donjons et Dragons.
Oui, c'est une nouvelle édition qui est sortie le 17 septembre dernier. Donc, le premier livre de la nouvelle édition, il manque encore.
Est-ce que c'est une nouvelle édition?
Non, c'est plus une demi-édition parce que tout est rétro-compatible avec la cinquième, donc...
Mais même Wizards of the Coast disent, est-ce que c'est 5.5? Non, c'est 5 éditions 2024. Ça va faire partie de mon raid, ça, je pense. Et dans le fond, aujourd'hui, dans l'émission, Nathan va nous présenter...
Mon première impression, en fait, j'ai feuilleté le livre rapidement ce matin pour aller regarder quelques points forts que je pouvais voir rapidement et quelques points faibles aussi que j'ai pu voir rapidement.
Puis on va se garocher là-dedans, direct là. Donc, Nathan, tes impressions de D&D 2024?
Bon, j'ai récolté surtout les points forts que j'avais vus par rapport à la structure du livre. En fait, c'est la plupart des points forts du livre viennent de sa structure, de comment il est bâti, comment il est monté.
Donc, une meilleure édition.
Une meilleure édition, oui.
On s'entend, ça n'a jamais été la force des éditions de Donjons et Dragons. Moi, je me rappelle de deuxième édition où c'était juste un... C'est une expédition archéologique, trouver une information.
J'ai des livres de la deuxième édition pour les monstres et c'est le bordel trouver quelque chose dedans. Fait que Bon, en fait, tout d'abord, étape numéro un, là, ils ont décidé de commencer ce livre-là avec les règles. Le premier chapitre du livre, c'est les règles de base sur comment jouer. Peu importe ta classe, peu importe ta race, peu importe tout. Ça, c'est les règles que tu as besoin pour jouer.
Comment ça fonctionne une séance de jeu de rôle sur table?
Non, comment ça fonctionne? Donjons et dragons sur table. Okay. Donc, toutes les règles en ce qui concerne le combat, en ce qui concerne le déplacement, le mouvement, se soigner et compagnie, tout est au début. Contrairement à la 5e édition où c'est du chapitre 7 au chapitre 9.
Donc, perdu en plein dans le milieu du livre.
À la fin, quand ça te tombe plus de lire, c'est là que sont les règles importantes que tu as besoin de savoir.
C'est quand même un choix spécial de dire voici comment t'attaques, mais tu sais pas avec quoi, puis. C'est une autre façon d'expliquer les règles.
T'as pas besoin de savoir comment t'attaquer, alors à comment avec quoi t'attaques, alors que tu dis ben pour attaquer, tu lances un dé. Voici le dé 20. Plus tard, on va te dire spécifiquement pour toi, qu'est-ce que t'as de besoin. Mais en gros, c'est ça les règles. Je trouve personnellement de commencer par ça, c'est une bonne idée.
Effectivement, pour l'initiation des nouveaux.
En fait, la plupart des points forts que j'ai trouvés, c'est en lien avec pour commencer Donjons et Dragons, c'est bien.
Donc, pour des nouveaux joueurs qui arrivent dans l'univers des jeux de rôle, c'est vraiment fait pour eux.
Oui, il y a beaucoup d'aide au niveau des nouveaux joueurs. Entre autres, l'autre point qui est le deuxième point que j'ai vu, au niveau de la création du personnage, au lieu de te dire, bon, ben, voici ta race, ensuite tu prends ta classe, ensuite tu prends. Il commence par te dire, bon, voici la structure de création. On va choisir ta classe. Ensuite, on va choisir ta race. Ensuite, on va choisir ton... Donc, il y a comme une structure qui était présente en cinquième, mais moins linéaire.
Mais l'ordre est changé aussi, parce qu'avant, on choisissait notre race en premier.
Exactement. Mais là, c'est parce que la race change absolument plus rien ou presque au niveau de ton personnage. Donc, c'est...
Puis, ils appellent plus ça la race en plus. Je pense qu'ils appellent ça l'espèce maintenant.
Ouais. Mais
c'est un changement de terme.
Ouais, 8 ans de vocabulaire, ça se perd pas en une heure de lecture le matin.
C'est des temps aussi. Hein?
Ouais. Mais, et aussi, pour t'aider à choisir qu'est-ce que tu veux faire, ils ont un overview de chaque classe, rapidement avec leurs caractéristiques qui vont être fortes, à quoi ils vont être bons pendant la partie, et à quel point ils sont difficiles à jouer. Pour savoir, bon, qu'est-ce que j'ai le goût comme première expérience de jouer quelque chose qui est complexe ou pas. Ce qui est quand même très important parce qu'avant, c'était le DM qui fallait qu'ils disent, ouais, non, ça c'est plus compliqué. Puis. Fait que ça enlève un petit peu de poids au niveau du DM pour la création de personnages.
Il y a un texte aussi, une affaire qui est assez majeure, c'est la responsabilité de connaître ses pouvoirs.
Oui. Une mention honorable pour la création de personnages, il y a un petit encadré gris sur la première page qui parle de la session zéro. Sur quoi, comment faire et qu'est-ce que tu as besoin de discuter dans ta section zéro. Quand je l'ai lu, j'ai fait comme... Bon, ben, ils ont écouté notre épisode l'an passé, puis c'est ce qu'ils ont remis, là, donc...
On s'entend, on n'est pas les inventeurs du concept de session zéro.
Non, mais... non. Aussi, autre truc qui est bien sur chaque classe, ils ont leur liste de sorts dans leur classe, au lieu d'être obligé d'aller voir dans la section magie pour savoir qu'est-ce que chaque classe peut lancer. Et... En lien également avec la magie, c'est sur chaque sort dans le glossaire de la magie, c'est écrit « Bon, mais ce sort-là peut être lancé par le barde, le magicien puis le sorcier. » Donc, ça l'aide un peu à déterminer, genre « Ouais, finalement, celle-là, je peux pas le lancer parce que... »
Donc, un retour d'une certaine structure organisationnelle qu'on voyait dans les éditions passées, mais qu'on voyait pas dans la nouvelle 5e édition.
Exactement. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant, au niveau du background, ils ont rajouté beaucoup d'images, en fait. Je vais y aller plus général. Ils ont rajouté beaucoup d'images sur, OK, tu veux te faire un bard de la subclasse de Glamour, ben, on va te donner une idée à quoi ça va ressembler. Ton background, ben, t'as une image de fond pour te dire où ton personnage vivait si tu prenais ce background-là.
Qui fait qu'un charlatan, c'est quelqu'un de pauvre d'un village. Puis, tu sais, fait que l'image. Background charlatan, voici ton kit de forgery, puis arrange-toi.
Exactement. Mais là, dans celle-là, ils ont, bien, par exemple, le fermier, ils vont mettre une petite ferme en image de background. Donc,
ça aide à te visualiser. Hein?
C'est ça, ça aide à visualiser c'est quoi le background. Ils ont fait la même chose pour les équipements. Chaque arme est. Puis il y a une image de l'arme, à quoi elle ressemble, pas à quoi ça sert. Puis.
Surtout pour certaines armes qu'on entend qui sont parfois exotiques, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça peut être pertinent de savoir à quoi ça ressemble.
Ouais, hein? C'est quoi une copèche?
Ouais, exactement. Il y a des belles photos, il y a des belles images dans le livre déjà. Je pense qu'on va devoir aller à la pause. Hein?
Ouais, on va poursuivre ton analyse après la pause. On retourne dans quelques secondes. On est de retour en ondes à Ludo Radio où Nathan est en train de nous exposer ses premières impressions de la nouvelle édition de Donjons et Dragons, Donjons et Dragons 2024.
Exactement. Un dernier point fort que je trouve qui est vraiment important, puis quand je l'ai vu, ça a fait comme « Mais pourquoi il n'y a pas ça dans les autres éditions? » C'est qu'à la fin du livre, il y a un glossaire rapide de tout ce qui est règlement que tu peux avoir de besoin, qui est, au lieu d'aller chercher dans le livre pour un règlement spécifique, tu peux aller chercher le glossaire, il y a un petit résumé rapide à lire.
Ça signifie quoi être tombé à terre? Ça signifie quoi être incapacité? Ça signifie quoi être dans un champ de lumière basse?
Et il y a aussi un tableau génial avec chaque petit acronyme sur ta feuille de personnage. Ça veut dire quoi? Mm-hmm. Pour avoir comme... Mm-hmm. Si tu as besoin d'un rappel rapide là, de ce que chaque petit acronyme veut
jusqu'à
dire.
Jusqu'à que Charisma devienne Riz.
Exactement.
Une autre chose aussi, moi, que j'ai remarqué, c'est que tu n'as plus besoin d'aller voir dans notre livre pour plein d'affaires. Comme tu t'achètes un cheval, tu as les stats de ton cheval dans le livre du joueur.
C'était déjà le cas dans 5.0. Il y avait le stats blog de tous les chevaux disponibles dans le.
Ouais, pour les... Mais...
Il y avait plusieurs sorts qui référaient à des créatures que
Mon exemple n'était pas bon parce qu'effectivement.
Pour les Celestials ou les Aberrations, et oui, en effet, il y a un stats blog, y compris pour tout ce qui est les créatures du Ranger. Ils ont toutes également. Donc, oui, en effet, ça l'aide de ne pas avoir besoin d'acheter deux livres.
Parce que
pour...
On s'entend, tu joues un druide, tu as comme besoin de deux livres.
Oui, oui, ça te prend le Monster Manual si tu veux jouer un druide.
Une autre chose, moi, qui m'a marqué, c'est la transfert de responsabilité de connaître les pouvoirs de classe. Tu veux-tu nous en parler un petit peu?
Oui, j'ai pas vraiment pris le temps de regarder chaque classe pour aller en détail, mais j'ai vu effectivement que, bien. Un des premiers trucs qu'ils disent sur la création de ta classe, c'est toi qui connais ta classe. Le DM va te poser des questions, il s'attend à ce que tu connaisses la réponse. C'est comme, si je te demande comment fonctionne telle habileté de ta classe, ben c'est toi qu'il faut qu'il sache, hein, pas le DM. Le DM, c'est pas un monsieur je sais tout.
Ouais, ça a une charge de travail que le GM a, puis ça responsabilise les joueurs un petit peu plus.
J'ai remarqué deux points faibles, par contre... dans mon truc rapide, c'est principalement au niveau des espèces, il y a moins d'informations. J'ai pris une des espèces en exemple, qui sont les elfes. Dans la 5e édition, il y a 4 pages de description sur chacune des sous-espèces d'elfes, puis comme avec des idées de nom et compagnie. Et dans le nouveau, c'est une page uniquement. Pas d'idées de nom, pas d'idées rien, juste ultra rapide, ultra simple. C'est...
Comme si les gens n'aimaient pas lire.
Exactement.
Et il y a une autre affaire qui est majeure dans les espèces.
En fait, c'est rendu que toutes les feats, tous les bonus, tous les trucs sont dans le background et il n'y a plus de demi-espèces. Donc, un demi-elfe, c'est-à-dire un parent humain et un parent elfe, ben, ça n'existe plus.
Plus de demi-elfe, plus de demi-orc.
Donc, moi, ce que je comprends maintenant de la lecture, c'est que dans D&D, les espèces ne se mélangent pas. C'est le premier feeling que j'ai vu en regardant ça, ce qui me déçoit un peu. Grandement, en fait.
Franchement, là, je suis non seulement dans ton camp, mais à quoi qu'ils ont pensé?
Je sais pas.
À quoi qu'ils ont... Où ils ont-tu pensé? T'sais, des fois, c'est plus ça la question qu'on aurait posée. Ils ont-tu pensé avant de...
Et le dernier point faible, pas malheureusement, c'est je trouve qu'il y a peu de changements par rapport à 5.0. Et il y en a encore moins si tu as acheté Tasha's Cauldron to Everything, Mordenkainen and Tomes of Foe. Si tu t'es tenu à jour avec les sorties de Donjons Dragons, ben...
Avec les livres crunchy. Là.
Avec les livres crunchy, donc, rajoute pas grand-chose. Là.
Attends, si on est quelqu'un qui a déjà tous les livres de la 5e, est-ce que ça vaut la peine d'acheter le nouveau?
Je crois pas que ça vaille la peine. À moins que tu te dises, toi, pour te simplifier le travail, tu veux commencer une campagne avec des néophytes. Auquel cas, oui, parce que pour les néophytes, je crois que c'est la meilleure édition qui ait jamais été sortie, sauf peut-être la 4, mais j'ai pas lu la 4, donc je peux pas...
Il y a quelques classes pour lesquelles ça vaut la peine. Moi, un de mes gros bugs de 5e édition, c'est le cleric, qui est supposé être traditionnellement le guérisseur du groupe. Ses capacités de guérison, c'était ridiculement poche. C'est pas dur, là. Ils ont dit que c'était un sort de guérison, il faisait un D8 avant, il fait deux D8 à cette heure. Fait que ton sort qui est top casté à niveau 4, il fait 4D8 de healing. Là, on commence à jaser.
Tout plein de conseils qui sont disponibles sur les différents forums du Reddit de que les joueurs disent « Ouais, le cleric est un peu faible, booster ses dégâts. » Donc, la communauté avait déjà réglé ces problèmes-là avant que Wizards of the Coast nous sorte la 5e édition.
Moi, ce que j'ai l'impression qu'ils ont fait, c'est... l'édition commence à être un peu vieillotte, là. Elle est sortie en quoi, 2012?
2014, je crois. Ça fait 8 ans que j'y joue. Ça faisait 2 ans qu'il est sorti. Fait que 2016.
C'est ça. Fait que presque... C'est très long pour une édition de Donjons et Dragons, là, on s'entend. Là. C'est
donc,
très,
ils ont recompilé, ils ont repris c'est les ça. Meilleurs éléments qui avaient été sortis au travers des années, ils ont remis dans un livre.
Pas toutes, disons, ils ont encore de l'amélioration à faire sur la nouvelle édition quand même. Là.
L'autre, ben moi, c'est ça, c'est l'autre point qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de sorts qui ont été retravaillés, comme des sorts qui étaient ridicules, de genre Stone Skin, ça te prenait concentration. C'est comme, tu te fais fesser, tu absorbes les dégâts. Puis tu perds ton sort. C'est comme, what? Fait qu'ils ont, ils ont modifié beaucoup de choses comme ça. Il y a encore des choses qui font aucun sens. Puis là, je veux mettre un mot qui commence par C entre aucun puis sens. Mais j'étais à radio, je vais me retenir.
Cependant, Nathan, si on est quelqu'un qui a jamais joué ou comme qu'on a joué un peu, mais qu'on n'a pas de livre, est-ce que tu recommanderais d'acheter la nouvelle ou l'ancienne?
Je te dirais, si tu n'as aucun livre chez toi, la nouvelle va t'aider grandement à mieux comprendre et à pousser un petit peu plus loin ta compréhension du jeu. Donc,
mais tant vérifie que ton groupe utilise cette version-là.
C'est rétro-compatible. Dans le livre, il y a tout ce qu'il faut pour prendre tous les livres de la 5e édition et ramener ça dans la nouvelle.
Ceci étant dit, il y a des... oui, tu peux faire du transfert, mais tu peux pas jouer avec un set ou l'autre set. Tu choisis avec lequel set de règles tu joues. Là.
Non, non. Mm-hmm. Les deux sont compatibles. Il y a tellement pas de changement au niveau des règles de base que les deux sont compatibles. Tu peux jouer avec celle-là puis des livres de la 5e sans trop de problèmes.
Je veux pas t'assister en onde. Mais je veux juste te dire, va lire Counterspell, on s'en reparle la prochaine fois.
Ouais, mais ça, je suis pas rentré dans totalement les détails. C'est ce qui est dit en advertising au niveau du truc, c'est que tout est compatible.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, bon, hein, les promesses de marketing puis la réalité, c'est pas toujours la même chose.
Non, en effet.
Sur ce, le temps avance, puis bon, on a d'autres choses à parler aujourd'hui.
Exactement.
On a une petite chronique de garage à faire. Fait que, Hugo, aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose.
Oui.
Mais je vais mettre le petit jingle.
Aujourd'hui, je vous présente les stratégies avec le deck building. Donc, c'est ceux qui sont pas très familiers avec le nom, pas mal tout reste dedans. C'est un jeu de construction de deck. Donc, vous allez commencer en général avec un deck de départ qui est assez faible, qui a divers effets de base. Et au fil de la partie, vous allez vous acheter des cartes pour être de plus en plus fort, faire de plus en plus de choses, obtenir de plus en plus de points, etc.
Un de mes mécanismes préférés.
Mm-hmm.
Tu veux nous nommer quelques jeux qui utilisent ça?
Oui, donc le jeu le plus connu, je dirais, qui est un pur deck building, serait Dominion. Mais plusieurs autres jeux le réutilisent, se focus entièrement dessus, tels que Star Realms, ou encore en reprennent le concept, tels que Aeon's End, Karmaka, Dune Imperium, Lost Winds of Arnak, et plein d'autres.
Oui, effectivement. C'est souvent pas nécessairement la mécanique principale, mais une grosse mécanique qui va supporter un jeu.
Oui, absolument. Et pour bien utiliser cette mécanique-là dans les jeux, ça reste très important de connaître c'est quoi les bonnes stratégies à employer pour construire son deck. Parce que ça pourrait sembler évident à première vue, mais il y a plusieurs pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Tout d'abord, pour lorsque vous allez avoir une option, il va généralement y avoir un marché dans lequel acheter vos cartes. Toutes les cartes que vous allez pouvoir acheter au cours d'une partie vont tomber dans une des 4 astérisques 5 grandes catégories d'achat. Il va y avoir les cartes appelées aggro, les cartes agressives de combat qui te rendent plus fort rapidement avec le coût du fait que ben, c'est rapide, c'est pas pour le long terme. Ensuite, tu vas avoir les stratégies de défense, de soins qui vont te rendre plus résilient face aux autres joueurs. Mais en même temps, tu ne ralentis pas les autres joueurs. C'est purement pour te défendre. Troisièmement, tu vas avoir les cartes qui vont être de contrôle de deck. Donc, parfois, ça va te servir à retirer des cartes moins fortes de ton deck. Mais ça va aussi de l'autre côté, simplement te faire piocher tout plein de cartes pour être garanti d'avoir celle que tu cherches. Et le dernier principal, c'est augmenter le pouvoir d'achat. Donc, que tu sois en mesure d'acheter des cartes plus fortes plus tard dans la partie.
Souvent aussi, ces cartes-là vont mener à... c'est pas nécessairement présent dans toutes les versions, mais la carte qui donne des points, enfin, beaucoup de...
C'est la cinquième catégorie. Ouais. C'est pas toutes les parties pour lesquelles l'achat de cartes octroie des points, mais il y a une cinquième catégorie qui va généralement être l'achat de points pour gagner la partie, avec souvent le drawback que c'est une carte morte lorsque tu la pioches.
Ça, c'est dans Dune Imperium, l'épice doit couler. Mm-hmm. Dans Clank, c'est le livre de magicien.
Dominion, les points de victoire, tout simplement.
Mais c'est généralement les cartes qui possèdent des achats, ça va être plus quand c'est pas uniquement le deck building qui est au centre du jeu, sauf pour Dominion, où c'est ton deck qui détermine tes points à la fin. Là. Donc, Dominion est une classe à part, mais pour la plupart des autres, ça va être quand les cartes valent des points, c'est généralement pas juste le deck building qui est au centre du jeu.
Exactement. On se prend un clink. Ces cartes-là sortent, c'est littéralement du dead weight. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont une petite valeur d'achat, mais qui n'est même pas proportionnelle à ce que tu as payé pour.
Donc, lorsque tu vas acheter des cartes, tu vas nécessairement tomber dans une de ces quatre catégories-là. Et chacune des catégories a son mérite. Ça va généralement aller dans une des grandes stratégies de jeu de cartes, de dire ben, est-ce que tu souhaites jouer, gagner rapidement, par exemple à Star Realms où c'est du joueur contre joueur. Tu peux dire je vais prendre une stratégie très agressive, acheter toutes les cartes qui me donnent de la force, du dégât pour tenter de tuer mon adversaire le plus vite possible. Au contraire, tu pourrais y aller sur un style de « je veux pas me faire éliminer, je vais y aller pure défense, je vais acheter toutes les cartes qui me soignent, toutes les cartes qui me permettent d'éviter du dégât, je vais acheter toutes les cartes qui font en sorte que je peux survivre plus longtemps. » Par exemple, à Clank, où est-ce qu'on reçoit progressivement du dégât, ben, je vais jouer toutes les cartes qui me permettent d'éviter ces instances de dégâts-là. Mais ça va dépendre un peu de où est-ce que tu veux t'en aller. À mon avis... Le plus important est de ne pas choisir qu'une seule des quatre stratégies. Pour être efficace, il faut que tu mix and match. Donc, dire ce que je veux, c'est avoir un plan de match. Je veux me rendre le plus loin possible dans la partie. Je veux faire le plus de points possible. Ou encore, mais étant donné que l'achat de cartes n'est qu'une partie, de jeu-là, ben, moi, focusser sur les points dans cette partie-là, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais pas aller acheter des cartes qui vaut des points. Je vais acheter des cartes qui me permettent de faire des actions en jeu que qu'est-ce que je veux. La plupart du temps, ça va être donc un coup d'opportunité, qui est un terme que Al apprécie beaucoup sortir, mais avec lequel je suis très d'accord. Ça va être de voir est-ce que la carte que j'achète vaut la peine que je l'achète pour mon plan de match. Et ça, c'est un des principaux pièges que les nouveaux joueurs tombent.
Mais il y a aussi est-ce qu'il vaut la peine que je l'achète tout de suite ou je peux me permettre de l'acheter dans deux tours?
Exactement. Pour juste terminer ce petit piège-là, ça ne signifie pas que tu as, par exemple, qu'il te reste un ou deux d'achat, que tu veux acheter la petite carte à un ou deux. Parfois, ça vaut la peine de dire, ben, je vais les perdre ces points-là, mais au moins, je vais pas piocher ces cartes de marde-là plus tard dans la partie.
Pour pas mettre du dead weight dans mon deck.
Exactement. Ou au final, ou tu veux dire, une grosse carte qui vaut plein de points, mais je l'achète en début de partie, puis ben, ensuite de ça... Je repioche à toutes les deux tours, puis à toutes les deux tours, je peux rien faire avec pour le restant de la partie. Donc, ça va être de dire, est-ce que ça vaut la peine que j'achète cette carte-là à ce moment-ci de la partie pour mon but?
On va aller faire une petite pause et on vous revient avec la deuxième moitié de l'émission au retour. De retour à Ludo Radio pour la deuxième moitié de l'émission. Avant d'aller en pause, Hugo nous parlait de stratégies à adopter quand on joue dans un jeu de deck builder.
Mm-hmm. Donc, je présentais comme quoi il y avait quelques grandes stratégies à suivre et les pièges à éviter. Donc, on rappelait le piège de ne pas nécessairement acheter des cartes parce que tu as la chance de le faire. Acheter des cartes qui ne te servent à rien ou qui n'avancent pas ton plan de match, on tente d'éviter autant que possible. Un peu en lien avec ça, va être un peu le points clés de tout deck, peu importe la stratégie, que tu choisisses d'y aller agressif, défensif, d'y aller avec plein d'achats, l'important, c'est la consistance. Donc, ton but va être d'aller vers ce que tu tentes de faire. Tu as généralement trois manières d'y aller. Soit prendre la stratégie de deck thinning, donc de retirer les cartes qui ne suivent pas ta stratégie au fil de la partie. Donc, à toutes les fois que tu vas piocher ces cartes-là, tu vas pouvoir enlever les autres qui ne suivent pas ta stratégie pour te ramasser avec un très petit deck, mais qui fait toujours ce que tu souhaites qu'il fasse. Ta deuxième technique va être de prendre toutes les cartes qui te font piocher. Parce que au final, piocher une carte dans la plupart des jeux de deck building, ça signifie que la carte que tu viens de jouer, qui t'a fait piocher, et donc tous ses effets subséquents sont pratiquement gratuits. Ça te redonne toutes les ressources que tu as dépensées à la jouer, dans la plupart des jeux.
En conservant les ressources d'achat pour la fin du tour, quand il y a une mécanique d'achat.
Parce qu'un des gros points, c'est que généralement, on peut utiliser des cartes pour un set d'actions ou un autre set d'actions. Mm-hmm. Si on fait beaucoup d'actions dans le premier set, on a moins de pouvoir d'achat dans le deuxième.
Donc, la jouer, par exemple, pour faire son action du premier set et piocher une carte, fait en sorte que tu as une nouvelle carte pour ta deuxième set d'action. Finalement, ça va être d'éviter d'acheter justement les cartes qui ne servent pas ta stratégie ou encore de juste acheter toutes les cartes qui servent à ta stratégie. De cette manière-là, tu n'auras pas toujours les mêmes cartes, mais tu auras toujours des cartes qui font ce que tu souhaites. Tu vas augmenter drastiquement la probabilité de piocher les cartes dont tu as besoin.
Ouais, ben je vais te poser une petite question comme ça. Est-ce que toutes tes stratégies sont complètement imperméables et si tu pars sur une stratégie, il y en a juste une ou tu peux les mélanger?
C'est le prix à payer un peu, je dirais, par rapport à la consistance qui est la versatilité. Donc oui, tu peux partir sur plus d'une stratégie. Tu peux dire, ben moi, je veux à la fois être agressif et acheter des cartes de plus en plus fortes. C'est un choix que tu peux faire. C'est un choix qui est très valide dans la plupart des circonstances et on... T'sais, j'encourage d'aller pour plus qu'une stratégie, mais choisis un peu ta priorité. Si tu fais moitié-moitié, ben la moitié du temps, tu seras purement agressif avec ce que tu auras pioché. La moitié du temps, tu seras purement de l'achat. Puis la moitié du temps, tu seras moitié-moitié, ce qui signifie que tu seras pas très agressif puis tu n'auras pas tant d'achats.
Souvent, les jeux comme ça sont construits pour que si tu y vas mi-figue, mi-raisin, tu es programmé de rien faire. Que de l'allure.
C'est un des dangers. C'est pas un danger nécessairement dans tous les jeux. Ça vaut quand même la peine d'en prendre un peu, de piocher un peu dans chacune des stratégies pour pouvoir arrondir tes fins de mois, disons-le ainsi. Là.
Donc, on évoque une stratégie principale et ben, possiblement peut-être comme une ou deux secondaires qui sont moins importantes, que tu fais moins, mais que tu vas aller chercher un peu.
Un cas très typique serait de dire je vais tenter d'aller chercher des cartes qui me permettent d'acheter des cartes de plus en plus fortes. Et une fois que je suis en mesure d'acheter des cartes extrêmement fortes, je vais acheter des cartes extrêmement fortes des autres stratégies. Ce qui fait en sorte que j'y pioche pas très souvent. Mais quand j'ai pioche,
ça fesse.
Au contraire, dire je vais y aller deck thinning, donc j'aurai pratiquement plus de cartes dans mon deck, puis en ça, j'achète une ou deux cartes d'une autre stratégie, j'y pioche à tous les tours parce qu'il me reste que ça dans mon deck.
Finalement, il y a une autre chose à considérer aussi, c'est que dans un open market, si votre voisin qui joue avant vous a la même idée que vous, vous êtes peut-être mieux de changer de stratégie.
C'est effectivement le point qui revenait aussi au point de ne pas acheter les cartes juste parce que tu peux. Si tu achètes des cartes qui sont médiocres, tu l'enlèves de devant ton adversaire et tu lui offres une nouvelle carte qui peut être très utile pour sa stratégie.
Puis lui, en même temps, il peut, s'il a la même stratégie que toi, prendre les cartes que tu aimerais avoir.
Voilà.
Fait que tu es peut-être là en compétition avec quelqu'un qui a le choix avant toi. C'est pas nécessairement la meilleure chose.
Donc, c'est bon d'être versatile dans ses stratégies puis de les connaître un peu toutes pour savoir, si je fais pas elle, je vais changer pour une autre.
Être capable de virer de bord sur si notre plan a besoin de changer. Puis...
Au final, le dernier truc, c'est dans les jeux qui offrent justement d'acheter des points, mais en échange de quoi, cela devient un peu une perte dans ton deck. Là, c'est le point à dire, c'est achète-en plus tard dans la partie que plus tôt. Particulièrement, on mentionne au dernier round, lorsqu'il n'y aura pas de pioche suivante, achète-en autant que possible, parce que anyway, tu les repiocheras pas.
Ou si le deck est assez épais que tu sais que t'as, si t'as discarté revenu, puis...
Justement, si tu as dit, ben moi, ma stratégie, ça a été d'acheter toutes les cartes d'une stratégie, ben même si j'achète 3-4 cartes qui servent à rien, ben j'en piocher j'en ai tellement dans mon deck que ben,
je vais être garanti, dans ma main.
C'est ça. Je vais être garanti d'avoir les cartes que je veux pareil. Question pour vous, les gars. On a parlé un peu des quatre stratégies principales. J'étais curieux de savoir, vous, dans les jeux, quelle stratégie vous préférez utiliser?
Ça va dépendre du jeu, ça va dépendre de comment la partie se déroule.
Sortir,
là.
Des exemples. Tu sais, comme moi, personnellement, la stratégie d'agressif, d'acheter toutes les cartes de force, de puissance, c'est pas réellement une stratégie que j'affectionne particulièrement. Je vais souvent y aller pour soit du deck thinning, soit de la défense.
Moi, je vais regarder qui joue avant moi. Mm-hmm. Je vais analyser qu'est-ce qu'il fait. Je vais espérer que c'est pas mon ami Mathieu. Puis je vais prendre de quoi qui sera pas du tout la même chose, qui sera pas du tout dans les mêmes branches.
Okay. Ouais, ça, moi aussi, ça va réellement dépendre de qui est autour de la table, comment ça se dessine, qu'est-ce qu'il y a dans le premier market. Mm-hmm. Genre, dans le premier market qui arrive à moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est plus du puissance d'achat? Donc, OK, ça, je vais peut-être y aller plus sur ça. Si le premier market, c'est ce qu'il m'offre.
Mais pour pousser la question, si dans ton premier market, t'as les quatre options, lesquelles tu choisirais de prendre de manière volontaire?
Je dirais deck thinning. Deck thinning? Ben ouais, deck thinning, mm-hmm. Parce que majoritairement, si t'es capable de jouer tes 18 cartes à tous les tours, tout le temps, c'est fort quand même. Là. Ah,
moi, j'irais plus dans le pigeage. Okay. Pas nécessairement dans le thinning, mais dans le genre, là, OK, normalement, j'ai une main de 5, mais je me ramasse avec une main de 8-9. Là. Mm-hmm. Là, oui, ça, qui est à peu près l'équivalent. Oui,
ce qui se combine généralement assez bien avec la stratégie d'augmenter ton pouvoir d'achat.
Oui,
parce que tu obtiens plein de cartes pour acheter des cartes.
Ça te fait plein d'options pour exercer, surtout si tu es dans un clank ou dans un duo d'imperium, où tu as besoin de pogner ta Moses de cartes de diplomatie. Là.
C'est le problème quand je joue avec vous deux, vous partez ces mêmes stratégies que moi, fait qu'on est tous à vouloir faire la même stratégie, ce qui fait en sorte qu'on ne l'a pas tout le temps.
Effectivement.
Hey, merci Hugo.
Mais ça fait plaisir, c'est tout pour moi.
Vous deux, vous allez nous laisser dans pas long pour des raisons académiques. Mais d'ici là, moi, je vais quand même terminer l'émission et je vais vous présenter le jeu de White Castle. Alors, The White Castle, c'est un nouveau jeu de 2023, mais qui a été en rupture de stock pendant presque toute l'année 2024. On l'a eu tout récemment, cet été. C'est un jeu à thème japonais qui est une combinaison de gestion de ressources, de worker placement et de dice rolling.
C'est là. Ce que je m'en vais dire. Le thème de présentation fit bien avec l'esthétique de la boîte là, aujourd'hui.
Alors, comment ça fonctionne de White Castle? C'est que ça se passe en trois rounds. Au début de chaque round, vous allez jeter 15 dés de trois couleurs différentes. Des oranges, des noirs et des blancs. Et là, vous avez trois petits ponts. Et vous allez ordonner sur les petits ponts les dés dans l'ordre, du plus grand au plus petit. Et après ça, les joueurs vont commencer à jouer. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour jouer? Ils prennent un dé soit à un bout du pont ou à l'autre bout du pont.
Ah!
Fait qu'au début, on a juste des valeurs très faibles et très fortes, normalement, dépendamment si on a un spread statistique normal. Et plus ça avance, plus on tombe dans les valeurs du milieu. Et les valeurs du milieu, c'est de la chenoute.
OK, donc tu veux les extrémités.
On veut les extrémités le plus rapidement possible. Alors, White Castle, c'est un jeu au niveau règlement qui est dans le pesant, là, mes amis. Là. J'ai pas... Écoute, faut que je pense là, à qu'est-ce qui est plus pesant que ça. Là, pis...
Donc, mettons, prochain party, si je joue à Ark Nova juste non, avant de jouer à non. Ça sera pas une bonne idée.
Non, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. Puis c'est pas tant que les règles sont difficiles à maîtriser, c'est qu'il y en a tellement, il y a tellement d'affaires à checker, il y a tellement de ressources, il y a tellement de concepts, que c'est comme, oh boy! Et c'est le genre de jeu que tu viens bon en jouant. Tu ne peux pas vraiment être popé ta première partie, à part si t'es un petit génie puis tu connais vraiment les principes en arrière.
Donc, quand BGG présente comme étant une complexité de 3 sur 5, toi, tu le mettrais plus haut
moi,
que ça?
Moi, je le mettrais facilement 3.9.
OK. Oh, quand même.
Ouais, mais c'est parce que pour BGG, 3 sur 5, c'est la complexité des règles, pas nécessairement la quantité. C'est le problème de la notation de BGG.
C'est ça. On a les règles, puis on a saisir le jeu. Ouais. Hein? C'est comme Marc Nova, les règles sont relativement faciles, saisir le jeu, OK, ouais. Puis je vous dirais que c'est ma raide de saisir les règles que j'ai trouvé la plus difficile depuis très longtemps, là. Là, puis c'est pas d'un jeu de durée Terraforming Mars ou Ark Nova, mais au niveau de saisir les jeux, là, c'est de saisir les règles, c'est pas mal tough. Puis le temps file, malheureusement. Fait que les boys, je vais vous souhaiter un bon après-midi, un bon cours.
On va essayer, on va essayer.
Puis on va aller à la pause et je vais faire une petite conclusion à l'émission. Salut les boys.
Ben, nous autres, on va dire au revoir à tout le monde. Puis bonne journée.
À la semaine prochaine.
Semaine prochaine.
De retour en onde pour le dernier segment de l'émission. Je suis tout seul en studio. Je vais essayer de ne pas mettre le feu. Pas de garantie. Donc, avant de partir, je vous parlais de The White Castle, un jeu de 2023 qui est 130e sur BGG avec une difficulté de 3.7 de règles. Saisir le jeu comme il faut, je pense que c'est vraiment plus difficile. C'est un score total de 8, donc relativement bien apprécié. Qu'est-ce qui est spécial dans ce jeu-là? C'est, entre autres, la modularité de tout ce qui se passe. Chaque action, dans le fond, est déterminée par sur le board et recouvrant d'une carte. Donc, à chaque fois qu'on va faire une action, on va pouvoir aller récupérer cette carte-là, en mettre une nouvelle, puis ça va changer le board à chaque fois. Donc, un niveau de complexité qui s'ajoute, de dire « Ah là, je voulais faire cette action-là qui allait me donner, disons, de la bouffe puis du nacre, mais là, je ne peux plus la faire parce qu'il y a un joueur qui est parti avec la carte. Il faut que je fasse un changement à ce niveau-là. » Moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai apprécié de ça. Ben, c'est ce niveau de complexité-là, mais c'est aussi un jeu qui est difficile à saisir. Les premières parties, comme je vous disais plus tôt, vont être consacrés à qu'est-ce qui fait que le jeu fonctionne, comment je peux mieux appliquer mes stratégies pour aller chercher mes points. Puis parlant des points, une chose qui est difficile à saisir, c'est que les points sont déterminés par deux facteurs qui, à la fin, se multiplient. Donc, on a un facteur qui donne... qui est les samouraïs, qui... est essentiellement la première partie de l'équation. Plus on a de samouraï, plus on va multiplier nos points à la fin. Puis on a une partie de nobles qui vont dans des différents tiers d'avancement. Et le tiers le plus bas vaut pas beaucoup de points. Le tiers le plus haut vaut beaucoup de points. Fait qu'on peut envoyer plusieurs nobles, mais si on n'est pas capable de les faire monter assez haut dans l'échelle, même si on a plein de samouraïs et plein de nobles, on va peut-être faire 3 fois 12. Puis voilà, ça fait 36 points, mais on va peut-être avoir quelqu'un qui a juste 2 samouraïs, mais qui a réussi à mettre 3 nobles vraiment plus haut dans l'échelle, puis ses points total de nobles, c'est 40. Fait que là, il est 2 fois 40, 80. Fait qu'il a passé moins de ressources, probablement passé le même nombre de points à investir, mais dépendamment de ses placements, il était capable de monter ses nobles plus haut dans l'échelle. Vite comme ça, c'est vraiment moins évident à expliquer. C'est un des jeux que je trouve qui est le moins évident à expliquer à la radio. Puis c'est pas parce que j'ai pas tant joué que ça. Sérieusement, un jeu qui gagne à être connu, pas dispendieux du tout. La plupart des gens s'accordent pour dire que c'est le meilleur ou le deuxième meilleur jeu de 2023 en compétition avec Earth. Sérieusement, je le recommande à n'importe qui aime se casser le noggin dans ces jeux de société. Quelque chose que j'apprécie moi personnellement aussi. Une partie d'à peu près une heure et demie. Donc vraiment pas long. À vrai dire, une des affaires moi, qui m'a choqué de ce jeu-là, c'est pour la complexité qu'il a, à quel point il se termine vite. Parce que dans le fond, ça se passe en 3 rounds, puis il y a 15 dés ramassés. Donc, chaque joueur va ramasser des dés à son tour. Et ça fait essentiellement qu'on ramasse 45 dés et le jeu est terminé. Fait que c'est 45 moves dans l'ensemble de la partie. Donc, comment on peut optimiser en 45 moves notre collection de ressources, nos avancements de nos samouraïs, nos avancements de nos nobles, puis il faut avancer nos points. Fait que c'est tout pour Ludo Radio cette semaine. Je vous rappelle, soirée de jeux de société tous les mercredis au E1. On ne sait jamais dans quel local on va avoir. Ce soir, on n'a pas le 001, on a des salles de conférence. Puis ben, on va aller squatter les lieux publics pour si jamais on déborde. N'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, plus on est, ben, plus on a de pôles à quand on réserve les locaux pour les garder. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine avec un Alex Racine qui va revenir nous voir. Bonne semaine!